bigger the lie, the more they believe. You see now, I'm here to tell you, this remaining silent shit ain't nothing like they make it out to be. You up in here all tight with it, waiting for your pay lawyer, thinking you all wise, ain't you? See, that worked with some kind of criminal mastermind. When you ain't been seen running from the deed, when your own fucking running partner ain't in the next room, putting your hand. He's telling it like a little bitch. We even went to Mickey D's for him because he was so motherfucking helpful. 2 quarter pounders, big fries, McDonald's cookies, Dr. Pepper. That's how your boy rolled, right?
All right, step out.
Where we going?
Break room. So you can enjoy that, huh?
All right. I still ain't saying shit to you, huh?
Yeah.
Marnell, what the fuck?
How many years you think we've been doing this same shit?
20 at least.
True. False. Load them up.
So this shit actually works, huh?
Hell yeah. Americans are stupid people by and large. I pretty much believe whatever we're told.
Comme celui que j'avais acheté de 500 pièces en septembre et qui achevé montrerait agrandi une image d'un album de Tintin. On eût dit un puzzle dont toutes les pièces étaient dispersées, or elles étaient très petites, il y en avait au moins 1000, et j'avais pensé qu'en relisant et en lisant de nouveaux livres de Villamatas, j'avais pensé, quand un jour soudainement Villamatas m'était revenu à l'esprit, que grâce à lui, c'est-à-dire à ses livres, les pièces de mon puzzle pourraient se recoller, se trouver, s'adapter, se rencontrer.
Pour ce recollage, je n'aurais pas pu utiliser Thomas Bernhard. Arno Schmitt, par exemple. Il me fallait quelqu'un de plus contemporain, de très contemporain, et surtout, il me fallait un écrivain vivant. Or, parmi les écrivains vivants, à la course de fond, Villamatas avait fini par dépasser Hanke. Non pas que mon amour pour Hanke et Fevely, mais ses derniers livres, alors que j'étais fatiguée,
n'avaient pas pu trouver leur chemin habituel en moi, alors que Villamatas, même quand il empilait 10 mises en abîme, trouvait toujours son chemin en moi. Et pourquoi ? Grâce à la joie. Il me faisait rire et me mettait dans une humeur excellente, lui dont l'humeur excellente le matin vire au noir dans le courant de l'après-midi et devient vraiment tourmenté une fois la nuit tombée, comme il le raconte dans Impression de Cassel, ne m'insufflait que de la joie, matin, midi et soir. Et surtout le soir, quand je me couchais une fois de plus avec tous mes lambeaux dispersés en moi, toutes ces pièces de puzzle s'emboîtant pas, et que j'ouvrais parfois à n'importe quelle page l'un de ces livres, la joie revenait aussitôt, les fragments se recollaient. Parfois, l'intensité d'attention que suppose sa lecture me fatiguait un peu passé minuit, et je finissais par déposer le livre ouvert sous le lit, éteindre ma lampe et me retourner sur mon oreiller, mais souriante, et avec l'impression que peut-être pour moi, tout n'était pas perdu. Je l'avais vu une fois, à Paris, lors d'une rencontre organisée par la Maison des écrivains et de la littérature à la Maison de l'Amérique latine, boulevard Saint-Germain. Je l'avais souvent vu en photo aussi. Mais bien sûr, à la Maison de l'Amérique latine, ce n'était pas du tout lui. Cet homme n'avait rien à voir avec son œuvre, comme tout homme n'a rien à voir avec son œuvre. Je me disais que si Kafka ou Walser, les malheureux, avaient dû paraître ainsi sur une estrade avec leur nom affiché devant eux, Robert Kafka ou Franz Walser, et se lancer dans un discours, nous ne saurions probablement plus rien de Walser ni de Kafka aujourd'hui, et la moitié de la Terre resterait dans l'obscurité. Villa Matas n'avait strictement rien de Villa Matas. Ce que j'avais supputé avant de me rendre à la Maison de l'Amérique latine et de m'asseoir dans le public, mais je voulais tout de même m'en assurer. La directrice de la Maison des écrivains et de la littérature m'avait invité à me joindre à eux tous, donc à Villa Matas, pour le dîner qui suivrait la causerie. Mais j'avais décliné aussitôt. Je ne voulais pas rencontrer Villa Matas, je voulais le lire. Je ne voulais pas parler avec lui, absolument pas rencontrer ses yeux. Je voulais entrer dans ses histoires et vivre avec ses histoires le temps de mes lectures et un peu plus. Par exemple, quand je me réveillais le matin et glissais chez moi, l'air somnambulique, quand je prenais mon bain après avoir refermé un de ses livres, quand je prenais la rue Notre-Dame-des-Champs ou traversais le jardin du Luxembourg l'après-midi, sans but précis, juste pour prendre l'air. Quand une pensée, une obsession momentanée me taraudait et me faisait du mal, si alors je pensais Villa Matas, une cité d'or s'installait en moi. Non pas que Villa Matas soit aussi parfait que Walser ou Kafka, non, et cela, il le sait bien, il le sait parfaitement, mais il est parmi les écrivains le mieux que l'on puisse être aujourd'hui, car aujourd'hui, nul ne peut plus être Walser ou Kafka, c'est impossible, la sainteté en art nous est refusée, c'est comme une condamnation, nous avons été chassés du paradis.
Enfin, la nuit d'été. La nuit d'été, n'est-ce pas ? La nuit d'été, n'est-ce pas ? En pleine campagne, après la journée sèche et poussiéreuse, et la fièvre du crépuscule, enfin, l'aube silencieuse nous met guère plus fraîche, la nuit d'été, n'est-ce pas ? En pleine campagne, et l'homme au seuil de la vieillesse, qui, protégé de l'extérieur par les murs blancs, par la toile métallique de la moustiquaire, lit, en écrivant de temps en temps des notes rapides, pleines d'abréviations, sur un carnet. Il a passé la journée à aller et venir dans la maison, évitant les espaces trop ensoleillés du potager et du jardin. Seul depuis que sa fille a épousé un médecin et s'en est allée vivre en ville. N'est-ce pas ? Il s'est séparé de sa deuxième femme il y a 10 ans, à peu près. Habitué déjà à la vie et à la mort, à cause de ses 64 ans, ayant derrière lui des périodes d'impuissance, de torpeur et de folie, mais possédant encore assez de force pour regarder, serein, le soir d'été à l'ombre des paradis, et pour travailler jusqu'à l'aube, une fois la nuit venue. Et son récit est à peu près ceci.
Et là, je me souviens bien de cette impression que j'avais d'avoir tous les éléments d'un livre, mais de les avoir en morceaux, de les avoir en petits morceaux, presque comme ceux d'une mosaïque, et dispersés. Et c'était assez troublant et assez inquiétant, même par moments, de savoir que le livre, avant de l'écrire, de savoir que le livre était là, mais en pièces détachées. Donc je savais que parfois quand on lit une œuvre qu'on aime passionnément, ces morceaux dispersés de sa propre œuvre, miraculeusement, un peu magiquement, comme dans un tour de prestidigitation, se mettent à se recoller, à se rassembler, et tout d'un coup à former cette image qui vous manque tellement quand on n'écrit pas. Cette image que va devenir votre livre.